Utopie.
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 Pluriel.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle, le podcast de la turbine.
La turbine.
La turbine.
Le podcast de la turbine.
Partir à la rencontre de celles et ceux qui vivent en utopie, qui la pensent, l'inventent et la déclinent au pluriel. Artistes, philosophes, urbanistes, écrivains, laissons la parole à celles et ceux qui ouvrent l'horizon de futurs désirables, aux faiseurs d'imaginaires qui explorent d'autres possibles. Aucune carte du monde n'est digne d'un regard, si le pays de l'utopie n'y figure pas. Oscar Wilde.
Utopie plurielle, le podcast de La Turbine, épisode 1. Aujourd'hui, La Turbine lève les voiles et se lance à l'abordage de cette série inédite sur l'utopie. Alors que l'heure est au confinement social, au retour sur soi, au retour à soi, tentons l'évasion. Rejoignons le territoire de l'utopie, espace aussi impalpable qu'inatteignable, le non-lieu de tous les possibles. Et pourtant, ce vers quoi on tend, sans jamais vraiment pouvoir l'atteindre. C'est l'une des premières citations qu'il m'a été donné d'entendre sur l'utopie, quand j'étais étudiante. Une phrase du penseur uruguayen Eduardo Galeano. L'utopie est à l'horizon. Je fais 2 pas en avant, elle s'éloigne de 2 pas. Je fais 10 pas de plus, elle s'éloigne de 10 pas. Aussi loin que je puisse marcher, je ne l'atteindrai jamais. À quoi sert l'utopie ? À cela. Elle sert à avancer. Avec cette série de portraits, La Turbine vous propose d'aller marcher à la rencontre de plusieurs voix, de penseurs d'utopies différentes, singulières, hétérogènes, et peut-être disparates, voire contradictoires, car l'utopie se décline au pluriel. Une série de podcasts qui s'écrit au temps long, au long cours, au fur et à mesure des rencontres. Pour ce premier épisode, rencontre avec le metteur en scène et plasticien Simon Gaucher, directeur artistique de l'école Parallèle Imaginaire. Bonjour Simon Gaucher.
Bonjour.
Merci de nous avoir ouvert les portes du théâtre de Bécherel et de l'école Parallèle Imaginaire aussi un peu. Avant de rentrer dans le vif du sujet, 2 petites questions rituelles qui ouvriront chacun nos entretiens présents et futurs. Quelle utopie poursuivez-vous et quelle utopie avez-vous abandonnée ?
Alors l'utopie que je poursuis, je crois qu'on pourrait la formuler comme ça, ce serait de croire en tout cas que l'art peut véritablement changer le monde. Et celle que j'ai abandonnée peu à peu, c'est d'imaginer que mon utopie ou que mes utopies pourraient être... que mes utopies devraient être imposées à tous, ou du moins d'imaginer que tout le monde devrait les partager. Et ce qui revient justement au titre de votre émission, de se dire qu'effectivement l'utopie elle est forcément plurielle pour qu'elle soit une utopie, sinon elle devient une dictature et un régime autoritaire quelque part.
Et donc pour imaginer vos propres utopies, pour les développer, vous avez créé l'école Parallèle Imaginaire, c'était en 2011, et plus qu'une compagnie de théâtre, elle se définit comme un lieu nomade qui invente des expériences dans des théâtres, des musées, dans l'espace public et pour des territoires. Alors pourquoi ce nom, l'école Parallèle Imaginaire ?
L'école Parallèle Imaginaire, ça vient d'une expérience qu'on a fait effectivement il y a maintenant 9 ans. On était à l'époque tous étudiants, moi-même j'étais étudiant en théâtre à l'école du TNB à Rennes, et avec d'autres élèves de différentes écoles, il y avait à la fois des étudiants de l'école des Beaux-Arts, de l'école d'architecture de Rennes, mais aussi d'ailleurs sur le territoire national. On se posait énormément de questions sur ce qu'on avait besoin d'apprendre. Ce qu'on avait besoin d'apprendre justement pour créer nos propres formes, qu'elles soient architecturales, plastiques ou spectaculaires. Et pour répondre quelque part à toutes ces questions, on s'est dit que la meilleure façon serait sans doute de créer notre propre école pour mener nos propres expériences. Et c'est pour ça qu'est née au départ cette école, qui était finalement donc une école parallèle à toutes les écoles existantes et à toutes nos formations dans lesquelles on était. Et comme on n'avait pas du tout de moyens financiers, de lieux à proprement parler pour incarner cette école, on s'est dit que cette école, elle était imaginaire et qu'on pouvait la convier à tout moment dans le réel. Donc là, par exemple, on en parle. donc quelque part, elle existe entre nous, elle existe peut-être pour ceux du coup qui écoutent. Et on est parti de l'idée qu'on apprenait par l'expérience, par empirisme. On était très influencé aussi par toute la théorie de Jacques Rancière du maître ignorant sur est-ce qu'il faut vraiment connaître quelque chose pour le transmettre. Et du coup, on a beaucoup travaillé autour de l'idée de mettre en place des expériences qui seraient des expériences qui nous apprendraient justement des choses dont on aurait besoin aujourd'hui. Expérience qu'on transmettait ensuite à d'autres avec l'idée finalement que c'était ce processus qui importait plus à transmettre plutôt qu'un savoir figé qui était très compliqué à définir en matière d'art ou même en matière d'architecture. Et de là est née cette école Parallèle Imaginaire qui est devenue une association à partir de 2013 et qui s'est du coup structurée alors qu'avant c'était vraiment une espèce d'école pirate qui colonisait un peu les lieux de transmission institutionnelle.
Dans les formes que vous défendez, il y a souvent cette notion d'imaginaire, de récit, et en même temps on a l'impression que votre projet artistique il est tout à fait ancré dans le réel, dans les préoccupations contemporaines et sociétales. Est-ce que c'est pas un peu contradictoire? Comment on fait en tout cas pour conjuguer le récit, l'imaginaire, la fiction et la réalité quotidienne?
Eh bien, pour moi, il y a vraiment le réel qui fabrique beaucoup d'imaginaires et qui impacte beaucoup nos imaginaires de manière générale. Je pense par exemple au terrorisme qui est vraiment une espèce de symptômes de ça, c'est-à-dire par un acte très réel, on crée une peur, on crée des divisions au sein d'une société. Et donc autant, voilà, le réel fabrique beaucoup d'imaginaires, autant, pour ma part, j'ai l'impression qu'il faut que nos imaginaires aussi fabriquent le réel et colonisent le réel d'une certaine façon. Et donc pour moi, les choses ne sont pas du tout... les choses sont très imbriquées. Et on le voit aussi par rapport à toutes ces questions des fake news ou aux États-Unis en ce moment. Il y a une réalité parallèle qui est créée. Et ce qui fait qu'on ne sait plus vraiment où est la réalité. Et donc pour moi, il y a un jeu et un aller-retour entre ces deux... Ces deux formes d'expérience qui est tout à fait intéressante. Et au-delà de ça, et ça c'est un peu dans les bases même de l'école parallèle imaginaire, je pense qu'on est dans une époque, et ça beaucoup de philosophes l'ont dit avant moi, que ce soit Günther Anders ou Annie Lebrun, qui postulent justement une crise de l'imaginaire dans laquelle on serait, dont on parlerait beaucoup moins que la crise climatique, écologique, économique dans laquelle on est, une crise de l'imaginaire qui justement atrophierait nos capacités de penser, d'imaginer. Et Günther Anders y parle de supraliminaire, c'est-à-dire de choses justement qui dépassent notre entendement. Mais pour moi, voilà, cette crise de l'imaginaire, elle est à la fois dans le fait qu'on n'arrive pas à imaginer ce qui nous arrive, c'est-à-dire d'imaginer par exemple le changement climatique. Tant qu'on ne l'a pas vécu dans notre chair, on ne parvient pas à le concevoir. Mais c'est aussi une question, une crise de l'imaginaire, de comment est-ce qu'on peut se représenter ou imaginer justement la société qui nous conviendrait. Et moi, je sens personnellement qu'il y a une espèce de complexité cognitive à sortir justement de ce qu'on connaît et à imaginer justement un monde souhaitable plutôt qu'un monde idéal, comme pourrait le dire Thomas More.
On entend beaucoup de penseurs de l'écologie, que ce soit Cyril Dion ou Pierre Rabhi ou d'autres, dire que finalement la transition c'est plutôt une évolution des récits. Est-ce que c'est si facile que ça comment on fait pour que des récits en fait ne touchent pas que l'individuel, mais enfin passer de l'individuel au collectif, parce que finalement c'est nos récits collectifs qu'il faut faire évoluer dans ce cas-là.
Oui, complètement, et c'est là la difficulté. Moi, je pense qu'on a enfin, depuis la naissance de l'humanité, on a toujours été bercé par des récits collectifs, des mythologies ou des religions, mais qui sont une autre façon de faire des récits. Et aujourd'hui, le problème, c'est qu'on est déjà dans un récit, en fait, et qu'on ne considère pas comme un récit. Et on est déjà dans une croyance, qui est la croyance néolibérale, pour le dire concrètement, qui est finalement une idéologie et qui est, d'une certaine manière, une utopie aussi. Et ça, je pense que c'est une vraie question par rapport à cette notion d'utopie dont on parle. C'est qu'on pense tout de suite que l'utopie est quelque chose de forcément de gauche ou forcément progressiste, ou, alors qu'il y a des utopies de droite qui sont tout à fait passionnantes. Mais peu à peu, on a considéré que l'utopie de droite était la réalité. Et du coup, on est, pour moi, en plein dans une idéologie là, qui est aussi une façon de voir le monde et qui a des récits qu'on connaît, qui sont liés à une idée du progrès, qu'on irait toujours justement vers une espèce de progression de l'humanité, une progression technologique. Il y a la question aussi d'un certain anthropocentrisme, c'est-à-dire, voilà, ce récit néolibéral, il met l'homme au centre et la nature et le monde qui l'entoure comme juste un terrain d'exploitation pour progresser, justement. Enfin, tout ça, en fait, forme un récit dans lequel on est et qu'il est très difficile de quitter. Donc, effectivement, je pense qu'il y a vraiment une question d'imaginaire à nommer, à formuler, mais ça, c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, à mon sens, et qui peut pas se faire d'un claquement de doigts et qui va demander de passer par toute une série de bouleversements pour accueillir ce nouveau récit.
Chers amis, chers parents, vous tous ici présents, nous partons aujourd'hui pour un beau voyage insensé et qui pourtant prend sens aujourd'hui plus que jamais. En ce dimanche 3 juillet, le cœur plein de joie et de tristesse, nous partons à la recherche de l'île d'Utopie.
Sur cette question de nouveaux récits et d'utopie, si on raccroche avec vos créations, elles appellent, en tout cas, elles évoquent sans cesse un autre monde utopique. Elles appellent au voyage, à l'exil, parfois. Le titre « Le beau monde », « Le radeau utopique », « Le naufrage utopique », vous revendiquez, d'une certaine manière, d'une appartenance à l'utopie, ou en tout cas vers quel territoire elle vous emmène, sachant que l'utopie, c'est étymologiquement le non-lieu. Ça vous permet d'inventer d'autres mondes ?
Oui, d'une certaine façon. Je dirais même que ça nous oblige ou ça nous engage. C'est un peu le point de départ de ces projets que vous citez, d'une certaine manière, le radeau utopique ou d'autres comme le projet apocalyptique. C'est une façon de réunir un groupe pour tenter, déjà pour nous, avant de le partager à d'autres, mais déjà tenter pour nous de formuler quel serait ce monde qu'on désire. Et en fait, c'est extrêmement compliqué. Et d'une certaine manière, on fait ces projets-là aussi pour se forcer à les imaginer, ces mondes désirables. Oui, après, l'utopie est vraiment, quelque part, à la base même de l'école parallèle imaginaire, dans le sens où c'était justement un non-lieu, quoi. C'était un lieu qui n'avait nulle part où exister concrètement, et du coup, c'était un lieu imaginaire, comme pouvait l'être justement l'utopie de Thomas More, ce nulle part dont vous avez rappelé l'étymologie. Et en même temps, une des premières actions de l'école parallèle imaginaire, ça a été d'organiser justement un colloque. C'était à l'école normale je crois que c'était en 2013 ou 2012, où l'idée était de réunir justement dans ce colloque que des gens qui croyaient en la possibilité de l'utopie. Et finalement de se dire que si on réunit un certain nombre de personnes dans une même salle qui croient en la possibilité de l'utopie, qu'est-ce qui empêche qu'elle advienne ? C'était un peu le point de départ de se dire finalement l'utopie en tant que croyance aussi, en tant qu'idéal, est définie par le nombre de personnes qui peuvent la penser. Et s'il y a un certain nombre de personnes qui croient, elle devient réalité.
Ça m'évoque vraiment la devise du nombril du monde, qui est « il faut le croire pour le voir
». Bah oui, je pense que il y a là-bas aussi des utopistes acharnés.
Et donc, du coup, pour en revenir à ce projet du radeau utopique, vous faites embarquer une équipe d'artistes, de scientifiques aussi, sur un radeau, de briques et de broc un peu. Enfin, on pourra en revenir sur ce radeau. Et avec pour mission de découvrir cette île d'utopie imaginée par Thomas More. C'est ça le projet ?
Ouais, c'est ça. C'est ça, ouais. C'était en 2016. 500 ans exactement après la publication du livre de Thomas More qui postule effectivement qu'il y aurait une île, alors qui serait dans l'Atlantique Sud d'après certains indices qu'on a recueillis avant notre départ, une île qui serait effectivement la société idéale. Et dans son livre, effectivement, il décrit le fonctionnement de cette île. Lui n'a pas été, mais a rencontré quelqu'un qui s'appelle Raphaël Itlaudé qui revient de cette île. Et de par nos recherches, on a constaté que personne n'était jamais parti à sa recherche. Et l'idée, effectivement, de créer cette expédition, c'était de rassembler un équipage, donc une dizaine de personnes. Effectivement, il y avait à la fois des artistes, mais il y avait aussi des architectes, des ingénieurs, une cartographe, pour trouver cette île, et voir comment elle avait évolué aussi depuis 500 ans, parce que sans doute que si elle est idéale, elle a de fait sans doute évolué. Elle n'est pas restée dans cette utopie du XVIe siècle qui était à l'époque encore esclavagiste et colonialiste. Donc l'idée, c'était effectivement de partir à sa recherche et de revenir raconter ce qu'on avait découvert, parce qu'on a décidé de revenir et de ne pas y rester.
Seulement, cette utopia, nul ne sait vraiment où elle se trouve. Thomas More invente le mot à partir du grec utopos, qui signifie le non-lieu, autrement dit le nulle part. Mais le nulle part est-il vraiment nulle part ? Nous avons décidé de partir à sa recherche. Nous allons braver océans et tempêtes pour trouver cette île. Nous faisons le pari qu'elle existe parce que nous en avons besoin. Plus que jamais, nous avons besoin de croire en cet ailleurs, de croire en la possibilité de l'utopie.
Alors, vous l'avez trouvé ?
Alors, ça, c'est la question ultime. On l'a trouvé. En fait, il y a un film qui raconte un peu notre aventure. Il y a un spectacle aussi qui raconte le fin mot de l'histoire et de la découverte de cette île. On l'a trouvé et je ne sais pas s'il faut que je révèle aujourd'hui sa position.
Non, on n'est pas obligé de tout révéler. En tout cas, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ce voyage ? Parce que finalement, vous êtes un équipage, vous n'êtes pas des marins avertis, il y a des artistes, enfin, en tout cas, un équipage hybride. Pourquoi cet équipage-là, composé de domaines différents ?
Eh bien, parce qu'il fallait pouvoir étudier... il fallait déjà pouvoir trouver cette île, ce qui n'est pas chose aisée. Il fallait ensuite pouvoir y résider, étudier son fonctionnement et du coup, effectivement, convier un certain nombre de connaissances, de compétences pour pouvoir le faire. Et il fallait déjà aussi pouvoir construire cette embarcation de fortune, qui est effectivement un radeau dans son plus simple appareil, hein, on peut le dire, des planchers posés sur des bidons, mais qui était aussi un peu le... Enfin voilà, on construit un radeau pour fuir un naufrage, donc on peut considérer aussi le monde actuel comme une sorte de lent naufrage dont il faudrait fuir. Et donc tout cet équipage a été réuni pendant un an. On est parti donc de Rennes en juillet 2016. On a descendu tout le canal d'Île-Errance, qui porte bien son nom par rapport à cette errance vers notre île, justement, jusqu'à Saint-Malo, avant de partir en mer pendant 9 mois pour trouver cette île. Et il y avait un certain nombre de communes qui étaient partenaires de notre expédition et dans lesquelles on faisait escale, à la fois à notre départ et à notre retour. Et quelque part, tout comme l'utopie de Thomas More est une sorte de miroir de l'Angleterre du XVIe siècle, il s'agissait pour nous aussi de rêver, de formuler cette île qui serait finalement un miroir du territoire qu'on traversait. Et donc on est revenu un an plus tard pour raconter toutes nos découvertes sous la forme d'un film qui est visible sur Internet encore aujourd'hui, d'un spectacle qui ne l'est plus, qui n'est plus visible parce qu'il a coulé avec le radeau, et d'un livre qui est disponible également.
Ce qui est génial quand on regarde la vidéo de ce voyage, c'est aussi que dans chaque village que vous traversez, il y a ce rassemblement de la population qui vient écouter, et en quelque sorte que vous essayez d'embarquer avec vous dans votre récit comme un peu un rituel de départ et de retour, de les emmener, de les embarquer avec vous.
Bah oui, complètement. Ouais. Je pense que dans le fait même de partir. De partir sur un navire, il y a quelque chose d'extrêmement puissant dans l'imaginaire ou dans le sensible. Et l'idée, évidemment, c'était de confier ces gens à voir notre embarcation partir à la recherche de cette île dont certains pensent qu'elle est imaginaire, d'autres pensent qu'elle est réelle. Et le fait même qu'ils assistent à ce départ fait que cette île commence à exister. Enfin, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure sur une communauté qui croit et fait que cette chose commence à exister. Inévitablement, le fait que cette communauté se réunisse au bord de la mer ou du canal fait que cette île commençait à s'imaginer, à se formuler. Et l'idée était aussi d'emmener avec nous justement ces territoires-là, mais pas seulement leurs habitants, mais aussi les élus de ces territoires. Et donc à chaque fois, dans chaque escale qu'on faisait, on invitait les élus à faire un discours sur ce radeau et à acter le fait que cette utopie finalement existe puisqu'on est rassemblés autour d'elle.
Ça doit être intéressant d'avoir un regard d'élu parfois très pragmatique sur ce monde imaginaire. Est-ce qu'ils se sont pris au jeu?
Ça dépend desquels. En tout cas, je pense que ça a posé des questions à beaucoup d'entre eux sur des questions de gouvernance aussi d'un territoire, tout comme l'utopie est finalement le récit d'une gouvernance politique d'un territoire, qui est en l'occurrence une île, ce qui est beaucoup plus simple, en fait, de formuler une utopie circonscrite dans un espace. C'est pour ça aussi que cette île de Thomas More est une île. Je pense que ça posait des questions, effectivement, d'ordre politique, si bien que quelques semaines après notre retour... on a trouvé un petit article dans un journal très local qui racontait le conseil municipal d'une commune qui s'appelle Saint-Judos, qui est vraiment une toute petite commune de 500 habitants, et où il y avait une espèce de polémique au sein du conseil municipal autour de la question de « faut-il donner une subvention au projet radeau utopique ?» C'est-à-dire que... toutes les communes partenaires finançaient aussi l'expédition à hauteur de leurs moyens. Là, en l'occurrence, la commune de Saint-Judos devait donner 300 euros pour l'accueil du projet. Et il y a eu un espèce de combat assez terrible au sein de la municipalité. Le maire était devenu minoritaire. Et du coup, l'entrefilet de ce journal racontait comment... la bataille faisait rage autour de la question de « faut-il financer l'utopie ?». Et une partie du conseil n'était pas du tout d'accord, tandis que l'autre, justement, disait que c'était important. Ce qui fait que, in fine, ils ont voté contre la subvention au projet du radeau, et que le maire, par contre, a voulu porter son engagement et a financé donc sa contribution sur son indemnité de maire. Mais du coup, c'est devenu presque une histoire politique, en fait, de savoir si l'utopie ou l'idéal d'un territoire doit être porté par ses élus ou non.
Et on oublie parfois, quand on traite les gens d'utopistes, que l'utopie, c'est une question éminemment politique, puisqu'il s'agit d'inventer un monde alternatif ou autre, ou en tout cas d'en avoir une vision de ce que pourrait être un monde, une société, donc c'est forcément politique.
Ah bah oui, complètement, ouais. Et on oublie souvent que Thomas More, en fait, était diplomate, qu'il était proche du pouvoir, en fait, en Angleterre. C'est aussi pour ça qu'il ne pouvait pas parler forcément, écrire un récit politique de l'Angleterre de l'époque, sans prendre la précaution, justement, de placer cette île de façon très lointaine, tout comme Racine place l'intrigue du Cid en Espagne. C'est une manière de questionner politiquement l'ici et maintenant que de déplacer le problème, et, enfin le problème, en tout cas la solution plutôt, que de déplacer la solution ailleurs. Mais il faut aussi rappeler que l'utopie de Thomas More, elle s'inscrit aussi au XVIe siècle, je pense 20 ans après la découverte de l'Amérique, dans un monde où justement... dans un monde qui s'ouvre, quoi, où tout est désormais possible, parce qu'on comprend que des territoires inexplorés existent et que du coup, sans doute, des formes politiques autres existent aussi.
En parlant de territoires inexplorés qui permettent effectivement d'ouvrir les possibles, sur un territoire qui, lui, est déjà exploré, comment on fait pour défricher de nouveaux possibles? C'est un peu ce que vous essayez de faire. Enfin, en tout cas, la question du lieu, elle infuse votre travail de création, votre façon de concevoir vos projets. Et il y a parmi les espaces que vous inventez, il y a aussi celui du théâtre de Bécherel, dans lequel on est reçu aujourd'hui. Est-ce que ça fait partie finalement de cette recherche d'utopie, à la fois de rechercher de nouveaux possibles dans des espaces finalement existants, physiques et réels?
En fait, je me souviens que pendant l'expédition justement du radeau utopique, on se posait un certain nombre de questions, hein, sur notre quête et sa faisabilité. Et à un moment, on en était arrivé dans nos considérations plus théoriques, justement sur cette question de l'utopie, à penser la question de l'échelle de l'utopie. Et comme on le disait tout à l'heure, voilà, l'utopie de Thomas More est une île, parce que c'est bien, bien pratique en réalité. Et aujourd'hui, à quelle échelle justement une expérience utopique est possible? Et une des choses qui avait surgi à ce moment-là, c'était de se dire, en fait, sans doute qu'une utopie n'est pas possible à une échelle nationale, tout comme la démocratie n'est pas possible à l'échelle nationale. Sans doute que l'échelle régionale, c'est encore un tout petit peu trop grand, mais l'échelle de la commune, en tout cas, permet de tester des choses et de voir les conséquences de nos actes assez rapidement. Et de ces discussions, voilà, était née l'idée que, effectivement, ce serait sans doute intéressant de questionner cet espace-là d'action et de création. Et quelque part, ce théâtre de Bécherel est arrivé juste après, par une sollicitation de la mairie pour réfléchir à l'usage du bâtiment. Et effectivement, d'une certaine manière, ça a été un peu aussi l'idée de concrétiser une expérience utopique, de se dire, voilà, de travailler sur un territoire et en fonction de ce territoire, d'inventer une réponse très concrète, très pratique à des idéaux qu'on pouvait avoir.
Alors, pour vous situer, le théâtre de Bécherel, on est situé à une trentaine de kilomètres de Rennes. Et donc, c'est un théâtre dont vous avez repris en quelque sorte la direction artistique, qui est en fait au départ un théâtre, un ancien patronage catholique, une scène, 150 places. Et vous imaginez, vous recréez un espace, un tiers-lieu finalement avec de multiples usages et vraiment connecté aux habitants, au réel.
Alors ce qu'on y fait, enfin l'enjeu au départ, c'était vraiment de se poser la question de... Qu'est-ce qu'aujourd'hui un lieu culturel dans un territoire rural? Enfin, qu'est-ce que ça devrait être? Et comment, effectivement, par le biais de l'art ou de la culture, on peut activer socialement un territoire? Ça vient aussi d'autres projets. Hein, on a fait un projet en 2016 qui travaillait beaucoup sur ces questions d'effondrement, qui s'appelait le projet apocalyptique, qui était vraiment un projet autour de ce livre qui est sorti à ce moment-là de Pablo Servigne et de Raphaël Stevens, Comment tout peut s'effondrer. Et en fait, En travaillant sur ces questions-là, on s'est dit peu à peu que l'effondrement ou la collapsologie était très compliqué à traiter artistiquement sans tomber dans un espèce de didactisme ou une espèce de moralisation justement du public qui était très très malaisant. Et ce qui était apparu là très fortement, c'était que, enfin, en tout cas, moi j'avais l'impression que l'art devait aussi très concrètement servir à recréer des solidarités au sein de ces territoires pour affronter justement les bouleversements à venir. Et la question du coup était comment un lieu qui était un théâtre, en tout cas qui était revendiqué comme tel et dont les lettres théâtre s'affichaient sur sa façade, comment un lieu théâtre permettait à une échelle très locale de recréer ces solidarités et de recréer aussi des imaginaires, mais de façon extrêmement située. Et donc l'enjeu, ça a été de se dire, voilà, ça répondait aussi à une autre question de comment aujourd'hui les théâtres qui sont des lieux dans lesquels beaucoup de gens se permettent pas de rentrer, se sentent complètement illégitimes à franchir la porte, comment ces lieux-là, on les pense pour que ce soit ouvert à beaucoup plus que 19% de la population qui sont à peu près le pourcentage de la population française qui fréquente les lieux culturels. Et donc l'idée était de se dire, un peu inspiré aussi par les pratiques d'urbanisme actuel, notamment toutes les expériences que mène Patrick Bouchain dans différents endroits via ce projet d'université foraine, mais bien d'autres, qui était de se dire, voilà, ces lieux qui sont des lieux souvent patrimoniaux, qui sont vacants, qui sont en train de se délabrer, comment est-ce qu'on peut les réinventer par l'usage et par l'expérience qu'on en fait ? Et de ne pas plaquer justement un espèce de projet artistique ou une programmation architecturale ou artistique, mais de cheminer en testant des usages, en testant des expériences dans ce lieu, ce qui fait que ça provoque une réappropriation collective qui serait pas du tout la même que si on imposait justement un programme dans un lieu défini. L'idée, ça a été aussi de se dire, voilà, on pourra pas obliger tout le monde à rentrer dans les théâtres, et d'ailleurs ça... Enfin, c'est une vision un peu autoritaire de se dire il faut absolument que les gens rentrent dans les théâtres. Mais s'ils n'ont pas envie, on n'est pas obligé, quoi. Donc l'idée aussi, c'était que ce lieu soit une sorte de camp de base, ce qui tombait bien vu qu'il est très mal isolé, il est un peu défraîchi. Donc d'imaginer que ce soit un camp de base pour infuser sur un territoire dans lequel on est. Et de là est né plein de choses, plein d'initiatives, à la fois un café qui s'est monté au sein même du théâtre, un café associatif qui fait que ça a créé un point de rendez-vous, qui a été un peu le premier acte en fait pour inaugurer le théâtre et acter le fait que le théâtre puisse être habité, et un rendez-vous dans lequel se sont retrouvés des gens de plus en plus nombreux, et un rendez-vous à partir duquel on pouvait inventer le reste, inventer ce qui se passait à côté, sur scène, ou inventer ce dont on avait besoin artistiquement ou en termes de manière très concrète aussi, en termes de nourriture très, 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 très concrète et pas seulement spirituelle, ce qu'on avait besoin pour manger, l'organisation qu'on avait besoin d'inventer pour ce village. Et petit à petit, le théâtre en tant que lieu de représentation, mais pas seulement de représentation justement spectaculaire, mais en tant que lieu de représentation d'un imaginaire collectif, a fait qu'un certain nombre de gens se sont retrouvés ici et inventent à la fois le fonctionnement du lieu comme finalement le fonctionnement du village.
C'est des nouvelles, un nouveau rapport au public qui n'est plus du coup seulement un public passif et un territoire comme juste un point sur une carte, mais bien des liens vivants qui sont tissés entre justement ces habitants, ce territoire, les gens qui l'habitent, qui le font vivre, que vous êtes en train d'inventer, que vous inventez au jour le jour à Bécherel. On peut presque parler d'une utopie concrète, finalement.
Oui. En tout cas, tout ça est défini par un idéal. Après, est-ce que c'est une utopie ? Il y avait une phrase de quelqu'un dont j'ai oublié le nom, qui disait que l'utopie n'était pas l'irréalisable, mais l'irréalisé. Et tant qu'effectivement on tend vers cet irréalisé, c'est une utopie, mais l'utopie peut devenir la réalité. Et après, ça pose une question très concrète pour moi, qui est que l'utopie ne peut pas effectivement être un système autonome et immobile, et elle est forcément en mouvement, et d'autre part, elle est forcément, à mon sens, située, c'est-à-dire elle est forcément contextuelle. Et on ne peut pas, comme je le disais un peu au début, se dire que voilà, on va imaginer un modèle qui sera le bon et qui sera le même pour tous. Et la réponse, en tout cas, qu'un théâtre comme ça apporte à Becherel ne serait pas du tout la même si ce même théâtre était dans un tout autre territoire. Et je pense qu'il faut inventer effectivement des utopies concrètes, mais surtout inventer des utopies localisées.
Pour conclure, une dernière question. Nous, à la Turbine, on tente un croisement ou un décloisonnement entre art et science pour écrire ces nouveaux récits, hein, en essayant notamment de questionner la place de la culture dans les transformations sociétales nécessaires. La culture étant définie comme un socle commun de valeurs, un langage, d'imaginaire. En quoi est-ce que la culture peut contribuer finalement au défi en cours, puisque ça fait partie de votre utopie de départ qui était que la culture peut changer le monde.
De fait, alors on parle de culture, on parle d'art, c'est pas forcément la même chose, mais pour moi, dans l'acte culturel ou l'acte artistique, il y a une dimension qu'on a peu l'habitude de fréquenter autrement, qui est la question du sensible. Et je pense que par le sensible, on peut toucher des endroits qui bousculent justement nos façons de faire, nos récits sociétaux, qu'on ne pourrait pas faire de manière rationnelle ou scientifique. Par l'art, on peut capter ce qu'on appelle des signaux faibles, c'est-à-dire justement des choses qui sont dans l'époque, mais qui ne sont pas encore formulées. Et ça, je pense qu'effectivement, les artistes, en tout cas, peuvent, ont une espèce de faculté, on le voit à travers les époques, à révéler des choses qui sont latentes. Des choses qui sont latentes. Et d'une certaine manière, c'est pas une surprise, en fait, que cette utopie de Thomas More naisse au XVIe siècle, parce que c'est le moment, justement, où il y a la naissance de l'imprimerie, il y a, comme on le disait, cette découverte de l'Amérique qui rend le monde infini, presque. Et il y a la guerre des paysans en Allemagne. Enfin, l'époque, en fait, raconte des choses. Et finalement, Thomas More, dans son utopie, rassemble un peu toute une pensée latente qui se formule là. Et moi, j'ai l'impression que voilà, l'art et la culture permettent de rassembler toutes les choses qui sont pas encore dites, pas encore formulées, mais qui sont déjà en action et qui sont... d'une certaine manière, il s'agit d'être... attentif à l'inouï ou à ce qui n'existe pas encore. Et ça, je pense que l'art peut être bien placé pour le faire.
Merci beaucoup, Simon. Alors, merci déjà d'avoir inauguré Utopie Plurielle. Merci beaucoup pour toutes ces idées et ces utopies que tu nous as distillées. Si, chers auditeurs, vous souhaitez en savoir plus sur le projet de l'école parallèle imaginaire, sur le théâtre de Becherel, n'hésitez pas à aller vous renseigner sur les sites internet qui y correspondent. On a aussi le film sur le radeau utopique qui est accessible sur internet. On mettra nous les liens dans les descriptions sur le site de la Turbine. Et puis bientôt d'autres contenus et d'autres portraits. Merci beaucoup, Simon, de nous avoir accompagnés pour ce premier épisode.
Merci à vous de votre invitation et au plaisir de vous recroiser sur des chemins réels et imaginaires.
Tout cela ne serait pas arrivé si on avait œuvré à réaliser l'utopie dans le réel, si cette île était devenue la nôtre, si on n'avait pas eu besoin de la placer dans un océan inatteignable. Si nous partons pour la mort, réjouissons-nous. Nous aurons au moins tenté une fois de croire en nos rêves, de croire en la possibilité de nos rêves. Et si nous partions vers la vie? Et si cette île qui n'existe pas sur cette terre où nous sommes finissait par exister parce qu'un radeau et son équipage décidaient d'y croire et de s'y rendre? Et si cette expédition faisait jaillir de la mer cette société idéale? Si cette société idéale fendait l'océan pour s'incarner parce qu'on aurait décidé d'y croire, de vouloir y croire? Et parce qu'on aurait décidé de l'imaginer, on aurait pu accoster sur une de ces plages, une de ces côtes, une de ces falaises.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle.
Utopie plurielle, le podcast de La Turbine.
La Turbine.
La Turbine.